Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et direction la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Dès le début de ce journal, nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des Afghans qui tentent de la traverser. Ils racontent les premiers jours de vie sous les talibans, alors qu'un gouvernement pourrait être formé aujourd'hui. Un petit air de campagne présidentielle aujourd'hui à Marseille. En plus d'Emmanuel Macron, pas moins de 4 autres candidats potentiels se retrouvent dans la région. Dans ce journal aussi, un premier bilan, 2 ans après le lancement du Grenelle des violences conjugales et la sortie de la saison finale de la Casa des Papel, la série phare de Netflix.
À 7h45, la saison 2 justement du débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ils échangeront ce matin sur cette question. Faut-il augmenter les salaires ?
France Inter.
En Afghanistan, le premier gros défi des talibans.
La formation d'un gouvernement attendu vraisemblablement pour aujourd'hui. Les nouveaux maîtres du pays l'ont promis inclusif, ce gouvernement, sans garantir pour l'instant qu'il comprendra des femmes ministres. Autre priorité pour eux, la remise en état de l'aéroport au plus vite. Alors qu'aux frontières terrestres, les postes de contrôle commencent difficilement à rouvrir, comme au passage de Torkham entre Afghanistan et Pakistan, où on put se rendre Mathilde Dehimi et Laurent Macchietti pour France Inter.
La file des camions s'étend sur des kilomètres des deux côtés de la frontière. Calendar s'impatiente.
Il y en a pour 6 heures de route depuis Kaboul. C'est comme d'habitude, sauf que là, on doit attendre 2 jours ici. Moi, je transporte des tomates. Mon patron s'inquiète, il n'arrête pas d'appeler.
Le Pakistan a besoin de fruits et légumes frais. L'Afghanistan, de médicaments, de riz, d'huile. Hamid peut enfin redémarrer avec son chargement de pommes.
Non, les talibans ne contrôlent pas nos papiers. Ils fouillent juste très rapidement nos camions. Ce sont des produits d'Afghanistan. Ils savent d'où ça vient.
Les talibans ont dressé le drapeau blanc de leur régime au pied de l'antique grille qui marque la frontière et pose fièrement arme à la main.
La situation est normale, il n'y a pas de problème, les camions avancent tranquillement, tout est calme. Moi je m'appelle Zandani, je viens de Nangara, tout se passe pacifiquement.
Derrière eux, 80 personnes attendent, il leur manque un papier, visa, passeport ou autorisation spéciale pour rentrer au Pakistan. Cette femme traverse le corridor piéton soulagée.
Ma sœur habite en Afghanistan, on a pu traverser pour lui présenter nos condoléances. Mais les talibans ont ensuite pris le poste frontière et on est resté coincé. La situation est stabilisée désormais, il n'y a pas de difficulté.
D'autres n'osent pas se présenter au poste par peur des talibans. D'après l'armée pakistanaise, près de 8000 personnes traversaient la frontière dans chaque sens en janvier. Les chiffres chutent ensuite brutalement à cause des combats en Afghanistan et des nouvelles restrictions Covid au Pakistan. Au poste frontière de Torkham, Laurent Macchietti, Mathilde Dehimi, France Inter.
Et qu'en sera-t-il maintenant de la reconnaissance des talibans par les Occidentaux ? Ce matin dans le Figaro, le ministre français des Affaires étrangères est très prudent. Pour Jean-Yves Le Drian, le nouveau régime n'a pour l'instant envoyé aucun signe de changement. Le bilan s'alourdit d'heure en heure après le passage de la tempête Ida dans le nord-est des États-Unis. Au moins 44 morts à New York et sa région. Certaines victimes ont été prises au piège dans les sous-sols de leurs immeubles. Au New Jersey voisin, des automobilistes sont restés coincés dans leurs voitures. Le président Biden est attendu aujourd'hui en Louisiane, là où Ida a touché terre dimanche, quand c'était encore un ouragan. Emmanuel Macron ne veut pas multiplier les engagements chiffrés pour Marseille. Le président a dévoilé son plan pour la ville hier soir. Alors il promet bien des aides pour moderniser les transports, l'hôpital, 1,5 milliard d'euros au total, selon l'Élysée. Mais sur la rénovation des écoles, par exemple, pas de montant avancé pour l'instant, même si l'État y prendra sa part. Le chef de l'État qui veut aussi des expérimentations pédagogiques, que les directeurs marseillais puissent choisir leurs enseignants. On y revient en détail dans le journal de 8 heures. Aujourd'hui, dernier jour de visite sur place consacré à l'environnement. Ce matin, balade dans le parc des Calanques et cet après-midi, ouverture du congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 5000 participants pendant 10 jours au chevet de la biodiversité. Cette dernière journée marseillaise aura de nouveau une saveur de campagne présidentielle avant l'heure, car en plus du président, 4 de ses adversaires potentiels seront dans la région. Certains tout près, Simon Le Baron.
Ce n'est pas le Caire ni d'espion, c'est Marseille ni de candidats. À droite, ils sont 3. Xavier Bertrand et Michel Barnier au Stade Vélodrome pour le Forum des entrepreneurs. Valérie Pécresse, comme Emmanuel Macron, au Congrès mondial de la nature. Le quatrième, c'est Éric Piolle, candidat à la primaire écologiste, lui aussi présent à la grand-messe de la biodiversité. Aurait-il choisi Marseille pour jouer le face-à-face et prendre un peu de la lumière médiatique braquée sur le président? Pas du tout, tout cela était prévu à leur agenda depuis bien longtemps, répondent leurs entourages respectifs. Mais enfin, s'ils étaient amenés, par le plus grand des hasards, à se trouver sur le chemin d'Emmanuel Macron, ils ne se déroberaient pas. Il est fort possible, oui, qu'il croise son futur prédécesseur, ajoute avec malice un ami d'Éric Piolle. Marseille, terre de campagne, il y a 5 ans, c'est ici qu'un ex-ministre de l'économie, à l'époque loin d'être favori, avait lancé sa marche victorieuse vers l'Élysée.
Simon Le Baron à Marseille pour France Inter. Les fabricants de traitements thérapeutiques lourds devront désormais disposer d'un stock minimal de 2 mois pour leurs patients français. La mesure vient d'entrer en vigueur. On parle là des médicaments anticancéreux, anti-infectieux ou contre les risques cardiovasculaires. L'idée, c'est d'éviter au maximum les risques de pénurie. 2500 signalements de rupture de stock ou de risque de rupture en 2020, par exemple. C'est 6 fois plus qu'il y a 4 ans. 2 ans jour pour jour après le Grenelle des violences conjugales. Où en est-on ? Le Premier ministre fait le point aujourd'hui dans la Manche. Alors que 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2020 et au moins 77 depuis le début de cette année, selon les chiffres des associations. Il y a 2 ans, 46 mesures étaient présentées. Certaines, comme les bracelets anti-rapprochement ou le téléphone grand danger, se déploient, mais très lentement. Alors les choses ont-elles vraiment changé ? Winnie Claret a posé la question à la gynécologue Rada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis et membre de la commission santé du Grenelle.
La lutte contre les violences conjugales est devenue l'affaire de tous. C'est ce que salue Rada Hatem, association, soignants, forces de l'ordre, justice, incitée par le gouvernement à travailler ensemble. C'est très malin, résume-t-elle. Et puis, il y a des avancées concrètes.
Le 3919H24, le numéro d'appel qui permet aux femmes victimes de violences d'avoir du soutien, des orientations. D'autres avancées, pouvoir obtenir une ordonnance de protection en 6 jours. Le fait de retirer systématiquement les armes à feu du domicile, bon, ça, c'est un engagement.
Un engagement, 100% des mesures sont engagées, selon le gouvernement, mais pas toutes mises en œuvre. Vigilance donc, mais on est sur la bonne pente, selon la gynécologue.
La parole autour des violences semble plus aisée. Est-ce que ça fait diminuer le nombre de féminicides ? Non. Tant que les 100% de mesures n'auront pas été menées à terme, on ne verra pas d'impact majeur sur les chiffres.
Et s'en donne-t-on simplement les moyens ? Les associations réclamaient une enveloppe d'1 milliard d'euros. Trop compliqué de faire les comptes pour le sénateur communiste Éric Bocquet, co-auteur du rapport sur le financement de ces mesures.
C'est un peu disséminé sur différents ministères, différents types d'actions, la justice, la police, la santé, etc. Et donc, on a du mal à avoir un chiffre près de la réalité.
Il réclame plus de transparence sur le budget alloué au Grenelle et un vrai suivi des mesures.
Et aujourd'hui, Jean Castex doit notamment généraliser des cellules de coordination de lutte contre ces violences pour éviter les pertes d'informations entre justice, police et associations. Dans le même ordre d'idées, il est aussi question d'un fichier des auteurs de violences conjugales. La rentrée scolaire, c'est fait. Reste à se faire vacciner pour les adolescents qui le souhaitent. 36% des 12-17 ans n'ont pour l'instant reçu aucune dose de vaccin. L'exécutif a promis des barnums de vaccination tout près, voire dans les établissements scolaires. Alors concrètement, comment cela va s'organiser dans les tout prochains jours ? Faustine Calmel, le protocole prévoit en fait plusieurs cas de figure.
La première option, c'est d'emmener les enfants vers les centres déjà ouverts. C'est le choix fait dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne, où moins d'un élève sur deux est vacciné. Tristan Hébert coordonne le centre du Vélodrome de Saint-Quentin.
Concrètement, nous avons 42 établissements scolaires qui sont rattachés au vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, on va organiser donc avec les chefs d'établissement des convoyages sur des créneaux dédiés. Donc, on aura chaque jour la possibilité d'accueillir jusqu'à 600 élèves pour la vaccination.
Solution privilégiée aussi, car dans le secteur, 10 000 élèves ne sont pas du tout vaccinés. L'autre option, c'est l'injection dans les établissements. Elle a les faveurs du département du Pas-de-Calais. Blandine Drin est la vice-présidente en charge des collèges.
Pour nous, il est indispensable que ce soit des équipes mobiles qui se déplacent dans les collèges et qu'on ne fasse surtout pas déplacer les élèves. Ça fait 18 mois qu'on se bat pour que les élèves soient le moins possible privés d'école. C'est pas maintenant qu'il faut leur faire perdre de précieuses heures de cours pour aller se faire vacciner dans des centres de vaccination les plus proches.
Ces équipes mobiles, c'est aussi la solution dans les zones plus rurales avec des établissements éloignés des lieux de vaccination ou celles comme les Landes ou la Bretagne où le taux d'adolescents vaccinés dépasse déjà les 80%.
Faustine Calmel, service sciences et santé d'Inter. C'était en juillet dernier, le vol du vaisseau Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson, censé lancer le tourisme spatial. Eh bien, on apprend aujourd'hui que cet aller-retour rapide dans l'espace n'était peut-être pas si réussi que cela. L'agence américaine de l'aviation enquête sur une déviation imprévue de trajectoire. Selon le New Yorker, un voyant rouge s'est allumé dans le cockpit, signalant un problème sérieux, mais les pilotes ont quand même décidé de poursuivre le vol. En attendant les résultats de l'enquête, le vaisseau de Branson est cloué au sol.
Les chiffres de Netflix devraient, eux, Alexis, en revanche, s'envoler de nouveau.
Et oui, avec le retour aujourd'hui de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel, la série à succès qui suit une bande de braqueurs espagnols. Pour l'occasion, la Monnaie de Paris vous propose d'essayer de la braquer, elle aussi. C'est un jeu, évidemment, un jeu immersif qu'Alexandra Hakoun est allée tester pour nous.
Ça commence comme une vraie visite de la Monnaie de Paris.
De Jean-Jacques Verski. Date de 1792
par groupe d'une quinzaine de personnes.
Magnifique salle.
Quand tout à coup, combinaison rouge, masque de Dali sur le visage, les trois individus qui viennent de débarquer mettent en joue les visiteurs.
Il est temps d'aller enfiler vos combinaisons maintenant.
Allez vers les caissons. Les tailles sont dessus, dégage vite avant que je te casse la gueule.
Les voilà propulsés comme dans la série espagnole au cœur d'un braquage, avec fumigène et lumière qui clignote. Sébastien Garcia est le responsable du projet Casa de Papel à la Monnaie de Paris pour l'agence événementielle Fever.
On ne va pas s'inscrire dans une saison en particulier, mais sur un script qui est en parallèle de l'histoire, comme si le professeur avait prévu d'autres braquages en parallèle des braquages de la saison 4 et 5.
Ambiance survoltée à souhait pendant une heure et les différentes étapes dont on ne vous dira rien de plus, si ce n'est, insiste Sébastien Garcia, qu'il ne s'agit pas d'un escape game.
C'est du théâtre immersif. Donc il y a des petits mécanismes d'escape game, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des effets spéciaux, il y a des acteurs. Leur but, c'est vraiment de vous plonger dans l'histoire en vous donnant une énigme, en vous mettant la pression. En faisant rire et de pas vous laisser vous en échapper.
Et pour Franck venu entre amis, mission parfaitement réussie.
Ah, c'est très immersif, c'est parfait, tout le monde participe. Il y a du rythme, c'est top.
D'ici la mi-décembre, la Casa de Papel d'expérience espère séduire 100 000 visiteurs.
Alexandra Hakoun qui a mis du chien pour ce jeu proposé donc à la Monnaie de Paris. Puis encore sur leur petit nuage olympique, les volleyeurs tricolores entament leur Euro aujourd'hui. Premier match ce soir contre la Slovaquie.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.